Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver hein, après ce petit break du lundi de Pentecôte, et oui, et pour cause, hein, puisque on va naturellement revenir sur cette longue saison de foot avant la Coupe du Monde, donc on va faire le bilan d'une saison exceptionnelle déjà, d'ailleurs à travers les deux victoires du Paris Saint-Germain, mais pas que, hein, puisque on parlera aussi de Ligue 1, on parlera aussi de la belle victoire de Lens, et puis du foot amateur aussi, de la belle saison notamment de Fleury Mérogis, et puis on aura une partie tennis dans la dernière partie de cette émission, on fera le point un petit peu sur une folle première semaine de tennis. Alors je veux saluer celles et ceux qui sont autour de la table. D'abord mon invité, on l'a assez régulièrement au téléphone, c'est notre ami Stéphane Desenclos. Bonsoir, bonsoir Stéphane.
Bonsoir tout le monde.
Comment tu vas?
Très bien, bah, super bien.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
Supporter du PSG, alors bien sûr. Un week-end extraordinaire, superbe.
Donc on va naturellement
Non, il ne reste pas la peine, il faut parler que de ça.
Oui, mais bon, on a quand même le timing à respecter. Émission Omnisport. Bonsoir Théo. Il est venu avec le maillot du Paris Saint-Germain. Théo, j'ai jamais vu autant de personnes donc avec le maillot du PSG aujourd'hui dans les transports en commun.
Ah bah ça, il y a toujours un engouement dans les grands événements.
Deux étoiles par contre. Hein.
Non, ça je l'ai pas encore pris. On verra si je l'achète, je sais pas encore. Mais il y avait une sacrée queue en plus pour l'avoir au lendemain de la finale, c'était assez dingue.
Très bien, bonsoir Marius.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
Toi t'étais au Parc des Princes?
J'étais au parc à la diffusion, je viens à peine de récupérer ma voix là. Ouais. C'est, samedi et dimanche c'était mort, mais c'était exceptionnel, grandiose.
Bon, elle a suivi ça d'assez loin, mais elle était dans les travées de Roland-Garros. Bonsoir Vanessa, ça va?
Bonsoir Philippe. Oui, j'ai pu suivre un peu Roland-Garros. Et puis évidemment, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ce week-end, pareil, j'ai jamais vu autant de personnes avec le maillot du PSG. Ouais. Tout le monde le portait, voilà, le véritable engouement.
Et tu sais que pour faire le lien avec Roland-Garros et puis le Paris Saint-Germain, Diane Paris, là, qui est sortie aujourd'hui, on l'a interviewée
tout
au Clarins.
Vous l'avez interviewée au Clarins du PSG, elle a arboré son maillot en conférence de presse, effet.
Bonsoir Stéphane, tu rends où? L'autre Stéphane.
Bonsoir à tous.
Ouais. Ça va, ça va, ça va, bon, super. Tu t'es partagé, toi, tennis, foot?
Moi, j'ai tout fait. J'ai aucun partage, que ce soit Roland Garros ou le PSG. J'étais heureux des deux manières, donc aucun souci.
Bon, très bien. Alors, Stéphane, on t'a très souvent au téléphone.
Oui.
Stéphane Desenclos, pardon. Oui. On t'a très souvent au téléphone. C'était le quotidien du sport il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est foot433.fr. Tu peux nous en parler un peu plus?
Exactement. 433. Dans l'ordre, c'est exactement 433foot.fr. Oui, voilà, c'est un média qui est tout récent, qu'on a lancé au mois de février. Et en fait, qui est spécialisé qui fait le foot en général.
Même si le foot avait une grosse importance.
C'est que le foot, je dirais qu'il y a quand même une partie aussi, il y a au moins 60% qui concerne le football de la région parisienne.
Oui,
tous les clubs amateurs de la région parisienne.
Ben justement, on en reparlera parce qu'on fera aussi un petit peu le bilan du national et on reviendra notamment sur le match de Fleury d'il y a 15 jours.
La campagne du club de notre ami monsieur Bovis, et puis Paris 13 Atlético
qui va jouer à Charletti
l'année prochaine, qui a à ma connaissance qui cherche toujours un entraîneur, parce qu'ils n'ont plus d'entraîneur, et puis Versailles aussi bien sûr, et puis même tous les autres clubs, le parcours qu'a fait extraordinaire des Samoan Lusitanos, qui ont terminé 3e de leur groupe en National 2, derrière quand même des clubs comme Cannes et Nîmes.
C'est pas passé loin.
D'une équipe comme Montreuil, par exemple, en Régional 1.
Avec Créteil qui n'avait pas très bien commencé, puis qui finit dans le 7e, 8e.
Si on veut parler un peu, mais qui a terminé en roue libre, Créteil. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu d'accord pour dire que c'était peut-être un peu vite en besogne pour monter tout de suite, pour jouer la montée. Ils voulaient bien sûr pas descendre, hein, donc ils étaient aussi un peu inquiets par leur début. Mais ils ont terminé la deuxième partie de saison en préparant déjà la saison prochaine avec plein de bonnes choses, de grosses promesses, notamment un centre de formation, plein de choses hyper intéressantes. On parle aussi beaucoup sur le site où on peut en parler. Une équipe comme Montreuil, par exemple, qui malheureusement était en régional 1 et voulait monter en national 3. Hein, pour beaucoup de clubs, c'est un pas important. A été barré par l'équipe réserve du Paris FC. C'est le manque de chance. C'est vrai qu'une équipe réserve quand même d'un club pro se retrouver au niveau régional, c'est un peu, ça fait un peu désordre. Ils n'ont pas eu de chance. Ils ont les meilleurs nombres de points de tous les autres groupes de R1. Puis malheureusement, ils sont bloqués parce qu'ils avaient cette équipe-là. Ouais. Donc il y a plein de choses intéressantes qu'on retrouve dans
4-3-3
foot.fr. Faire avec des interviews des présidents de clubs.
Alors justement, pour faire la liaison avec le Paris Saint-Germain, on voit que le vivier francilien, il est immense, il est énorme.
Ouais, c'est absolument incroyable, c'est ce qu'on voit à travers... On donne la parole sur le site à beaucoup d'éducateurs qui travaillent en région parisienne, et c'est vrai que même ceux qui ne travaillent pas directement pour des clubs, je travaille pour des clubs étrangers, ou en tout cas de province, et sont là aussi pour superviser des joueurs qui sont en région parisienne, parce que c'est quand même un vivier et un enjeu financier qui est incroyable, et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs, on en parle sur le site entre autres, on voit maintenant de plus en plus de clubs étrangers. Vouloir mettre un pied en Île-de-France. Mmh. C'est le cas, par exemple, pour le Bayern Munich, par exemple, qui s'intéresse au club de Montfermeil, qui est un des plus grands clubs formateurs de France, voire d'Europe, quoi, qui n'a pas d'équipe senior, hein, qui a une équipe senior, mais qui fait uniquement tous ses efforts sur les jeunes. Il y a Hoffenheim qui a un accord avec Sarcelles, par exemple. Il y a un club comme Hambourg qui cherche peut-être à prendre un club, où il y a beaucoup de clubs, c'est initié par les Allemands, mais aussi les Anglais, parce que le vivier est incroyable. Et puis quand vous voyez les sommes des joueurs qui sont... l'exemple un des plus grands exemples, c'est Ryan Mahrez, qui était à Montreuil, qui a commencé en jeune à Montreuil, qui est parti au Havre, et après qui a été transféré. C'est des montants, des sommes de transfert incroyables, quoi. Mmh. Alors bien sûr, les clubs maintenant veulent avoir plus de mainmise, des priorités sur ces jeunes-là, plutôt que de les quand ils sont jeunes, hein, c'est sûr, Mahrez, c'est pas un petit jeune, mais pour après de devoir mettre de l'argent pour les et puis bien sûr on peut parler de Kylian Mbappé, hein, l'exemple.
Ouais, mais Marcos, ouais, c'est Kylian Mbappé. Et puis on en parlera dans le bilan, Mateta par exemple, qui vient de l'Île-de-France, voilà, exactement. Et qui a gagné la Conference League avec Crystal Palace. Hein,
ouais, exactement. Enfin,
voilà. Donc c'est vrai que c'est bien de parler du foot francilien régulièrement. Paris Saint-Germain, Arsenal, donc c'était la grande finale. À jamais les premiers, le Paris Saint-Germain. Ouais. Deux fois champion d'Europe.
Oui, et oui.
Qui plus est,
mais ça peut être, c'est une allusion à une autre grande équipe, française.
Oui.
Qui à la limite aujourd'hui, ça intéresse pas les gens, je pense, qui sont supporters du Paris Saint-Germain, qui sont des adultes et non pas des espèces de bagarres, d'insultes sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Qui est meilleur et tout. Maintenant, c'est sûr que voilà, on peut pas, c'est incomparable. L'OM a fait quelque chose de merveilleux il y a 33 ans, hein, en gagnant cette Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est Paris Saint-Germain.
Et on avait tous vibré, tous amoureux du foot.
Exactement,
avec
je me rappelle très bien.
Mais bon, la société a tellement changé.
Où j'étais quand j'ai regardé cette finale et tout, j'étais vraiment heureux. Maintenant, effectivement, après, il y a eu l'hégémonie
Lyonnaise.
Dans l'ordre Saint-Etienne, avant même Marseille. Ouais. Après, il y a eu l'hégémonie Lyon, et là, on est dans l'hégémonie Paris. Et les compétitions européennes ont pris une place complètement différente quand on voit les calendriers aujourd'hui, parce que si on regarde aujourd'hui le Paris Saint-Germain, on va directement vers on en parlait déjà il y a quelques années, on va directement vers si on regarde cette année les 11 joueurs, on ne parle pas du gardien de but, mais les 10 joueurs qui ont joué la finale du Paris Saint-Germain, On les a très très peu vus jouer cette année. Mmh. On les a très très peu vus jouer cette année. Dembélé, c'est 11 matchs, ou je ne sais pas combien de matchs titulaires.
Mais décisif à chaque fois.
Hein. Voilà. Marquinhos, c'est 15 matchs de Ligue 1, je crois, grand maximum. Quoi. La grande majorité des joueurs, à part des exceptions. Il y avait une équipe, équipe pour jouer la Ligue 1.
Plus fraîche.
À la fin, c'est comme ça qu'ils ont eu. Ouais. Et il y avait une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Quoi.
Alors, 1-1 après prolongation, 4-3 au tir au but. Paris, c'est aussi maintenant gérer les tirs au but. Alors, c'est vrai que pour revenir sur la finale, ça ne restera pas dans l'histoire du foot, ça ne sera pas une grande finale dans les annales du jeu. Mais heureusement que Paris Saint-Germain, quand même, s'est imposé. C'est quand même le jeu qui, sur la deuxième mi-temps, a été quand même récompensé.
Ouais, tout à fait. Ben, moi, je sais que quand on est fan du Paris Saint-Germain et qu'on regarde le match, on passe toute la deuxième mi-temps pratiquement à dire, en tout cas à partir du moment où, au moins où on égalise, on va dire, on passe tout notre temps à se dire, putain, ça va quand même pas, on va quand même pas aller au tir au but, on va quand même pas nous battre au tir au but. Et puis quand arrive, en tout cas moi je parle pour moi, quand arrivent les trois dernières minutes, le dernier corner, la dernière occasion et tout, on va dire « Ah bah finalement, ce serait bien d'aller au tir au but, je veux pas qu'on le prenne là-dessus. » Mais parce qu'on commence un peu, ça c'est des trucs de supporters, quoi. Non mais c'est vrai que dans l'ensemble, ça aurait été, ça aurait été quand même un peu dommage.
Enfin, Paris a grandi, Paris a mûri, parce que Paris sait gérer maintenant le côté événement à travers justement cette séance de tir au but. Hein. Ils ont gagné contre Liverpool, il y a eu donc la Super Coupe d'Europe, il y a eu le Trophée des Champions, la Coupe Intercontinentale, et maintenant cette Ligue des Champions, au tir au but.
Ouais, tout à fait, Et gagner au tir au but et aussi traverser des moments difficiles.
Et renverser les situations à chaque
très
fois.
Très difficiles dans un match, et toujours y croire et toujours avoir conscience. On se rappelle même l'année dernière. Rappelez-vous l'année dernière, la demi-finale contre Arsenal, justement. Bah, la demi-finale contre Arsenal. D'abord, d'entrée de jeu, ils sont bien dominés, les Parisiens. Ils manquent pour un but, ils finissent par marquer. Mais après, il y a un moment très important qui résume ça, c'est qu'il y a un pénalty pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain rate le pénalty. On est en demi-finale de Ligue des Champions. Imaginez deux secondes, il y a 5 ans, 6 ans, là, cette situation-là. Et là, aujourd'hui, 5 minutes après, quelques minutes après, il marque un but, quoi. Comme rien n'était.
Et je me demandais, d'après vous, qu'est-ce qui a fait la différence, peut-être sur la gestion du mental, donc d'une année sur l'autre, et peut-être dans le jeu, que finalement, oui, certes, c'était pas un match qui restera dans les annales en termes de jeu, mais finalement, on va jusqu'au bout et on serre les dents.
Justement,
ça fait 2 ans le mental maintenant. Hein.
Oui. Mais justement, là, sur cette séance de tir au but, par exemple, ou d'une manière globale, l'évolution depuis 2 ans, comment vous l'expliquez avec Luis Enrique, d'après vous, quels sont les éléments qu'il a mis en place pour pouvoir justement arriver à ça?
Voilà, effectivement, il faut savoir que
le club est devenu plus important que le joueur.
Que le club travaille avec un préparateur mental. Voilà. Ça, maintenant, c'est quasiment.
Et puis, on ne s'est pas trompé dans le recrutement, parce que Campos, il est super. Hein. Il ne s'est pas beaucoup trompé. Hein. Quand il est cherché Varane-Kylian, quoi, il ne s'est pas beaucoup.
C'est-à-dire que la clé, c'est...
Et Enrique,
il a fait quelques erreurs, notre ami Campos, dont une énormissime... Ah si, il a commencé par une énorme erreur. Énormissime, en faisant venir Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain.
Ouais, mais après, Carlos Soler...
Moi, je trouve que on se trompe toujours un peu, mais surtout, après, on voit surtout ce qui fait de bien, c'est l'été 2024, quoi. L'été 2024, c'est Pacho, c'est Neves, je ne sais plus qui encore. Le mois de janvier, 6 mois après, c'est Kvaratskhelia. Désiré Doué aussi,
C'est pas planté. Hein.
C'est monumental, quoi. C'est monumental, quoi. Et après, comme on dit, si on veut expliquer...
Un président qui les a laissés travailler, qui a plus voulu faire business, et puis voilà, impeccable.
Ouais, tout à fait, exactement. Ouais. Et puis qui a voulu surtout... Après, il faut aussi accorder énormément de mérite je pense, à Luis Enrique.
Voilà, c'est ce que je voulais un peu savoir.
Ce qui est absolument incroyable, c'est que je pense que les gens ne s'en rendent pas assez compte par rapport à Luis Enrique. C'est que hier samedi, à Budapest, l'équipe qui met sur le terrain, cette année, saison 2025-2026, je crois qu'elle a joué 3 minutes ou... quelques minutes ensemble.
Oui, c'est ça.
Lui, depuis le début de la saison, son obsession à Luciano Riquié, c'est de mettre ces 10 mecs-là, ou après, bon, peut-être
au top, au maxi, quoi.
les meilleurs le jour de la finale.
Ah, oui, d'accord.
Il a tout fait pour. Alors après, tu as des gens qui regardaient, on va peut-être perdre le titre, Paris n'est pas bon, Paris a quand même des défaites, Paris ceci, Paris cela. Il y a une...
Deux défaites seulement, hein, en phase de poule.
Il y a une erreur par rapport au niveau d'une équipe comme Paris, leur phase de championnat de la phase de Ligue en Ligue des Champions, elle n'est pas très bien réussie.
Beaucoup mieux que celle de l'année dernière, en tout cas, quand même.
Oui,
là, il n'y a pas photo, quand même. Deux défaites seulement, et je crois qu'il y a un match nul.
Tu gagnes deux fois de suite. Double affrontement, par exemple, contre Monaco, il n'est pas extraordinaire.
Alors, ça a été le match le plus laborieux. La qualification, ça a été probablement la plus difficile, plus que le quart de finale. Plus que donc le.
Je sais pas si ça a été le match le plus difficile, mais ça a été le match le plus laborieux.
Ça a été compliqué.
En championnat aussi, Monaco a posé beaucoup de problèmes à Paris.
Ça a été compliqué quand même.
Ça a été compliqué. Maintenant, il y a aussi certains. Moi, je sais pas vous, mais moi qui ai regardé, il y a eu très souvent des matchs que Paris ne dominait pas tellement. En fait, même des fois, ils étaient menés. Et puis, 20 minutes de la fin ou une demi-heure de la fin, il te sort quand même les 2-3 meilleurs joueurs de l'équipe, quoi. Alors toi, quand tu regardes le match et que t'es un petit supporter de base, tu te dis, putain, mais pourquoi ils sont les meilleurs? On va pas arriver à les battre si c'est comme ça et tout. Mais lui, il a un temps d'avance, il pense au match d'après.
Est-ce que c'est pas justement la force du club? Parce qu'il sort ses meilleurs joueurs, personne ne dit rien. Il fut un temps où on n'aurait pas osé sortir ses meilleurs joueurs.
Ouais, et où les...
On se rappelle d'Ibra que Blanc, il avait du mal à sortir.
Ouais. Voilà, en fait, si on veut,
entre autres,
pour avoir été
ou Mbappé qui n'était pas toujours très content,
Voilà, moi, je suis un supporter de, j'ai pas de mal pour en parler parce que j'ai toujours des fois on me dit ouais, t'es journaliste, t'es supporter, mais je faisais pas encore mes études de journaliste que j'étais déjà supporter du PSG, donc je vais pas changer quoi. C'est pas que j'ai été séduit par un tel ou un tel, je vais pas changer quoi. Mais moi aujourd'hui, je pense que une des plus grandes, on voit le changement, c'est par exemple le PSG d'Ibrahimovic et le PSG de Ousmane Dembélé, si on veut prendre à chaque fois les deux.
Parce que le club est devenu plus important.
Ça n'a strictement rien à voir.
C'était pas le business. Alors qu'au départ, c'était le business.
Voilà, exactement.
Quand on fait venir Beckham, Ramos, c'est le business. C'était des joueurs en fin de carrière.
Il y a eu un changement.
Et ça, ils l'ont compris.
Il y a un changement total, quoi. Mais bon. Moi, je pense pas que c'est Beckham Ramos qu'on
Ah, oh, fallait vendre des maillots, Stéphane.
Non, mais sur l'intention, je suis bien d'accord. Voilà. Ce qu'il y a plus, parce que je n'arriverai jamais à comprendre, ça n'a rien à voir avec le titre, mais de toute ma vie entière, je crois peut-être avant de mourir, je comprendrai pas comment on peut avoir Neymar et Messi dans son équipe et faire venir Christophe Galtier pour entraîner ces deux joueurs-là.
Ça, c'est vrai.
Alors ça, je n'arriverai jamais à le comprendre. Jamais de ma vie. Maintenant, tout ça, c'est du passé. Maintenant, je fais partie des joueurs, des gens. C'est une opinion complètement pas forcément partagée, qui pense aujourd'hui que même avec Kylian Mbappé, le PSG y gagnerait et qu'il serait même encore plus fort avec Kylian Mbappé, ce PSG-là. Moi, je fais partie des gens qui pensent ça, mais au-delà, je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui pensent pas pareil, mais au-delà de ça, il y a une façon de travailler, de vivre qui est complètement différente. Ouais. Et il y a quand même un truc très spécifique quand même qui pour moi est le principal, c'est que regardez, il y a 4-5 ans on disait quoi? Paris Saint-Germain gagnera jamais la Ligue des Champions parce que le championnat de France est trop faible.
Oui, pas que ça. Mais
aujourd'hui, on dit ils ont gagné, en tout cas Arsenal, Arteta, et je pense qu'il a pas complètement tort Arteta quand il dit ce genre de choses. Il dit le PSG, il dit pas ça directement comme ça, mais si le PSG est si fort aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que le championnat de France est faible. Et moi, je pense qu'on en... Je pense
au contraire,
qu'on en
je pense qu'il est plus intéressant maintenant qu'il y a quelques années.
Bah oui, mais il faut aussi être honnête. Moi, je suis pas du tout un supporter d'Arsenal, je comprends pas comment ils ont pu jouer comme ça, mais faut quand même reconnaître que Arsenal, ils se sont battus bec et ongles tous les week-ends comme des fous, fallait qu'ils mettent sa meilleure équipe et tout pour espérer pouvoir être champion, alors que Luis Enrique, il a fait jouer son équipe bis sur un match sur trois, c'était son équipe bis qui jouait, quoi. Mmh. À part Marseille, les deux matchs contre Marseille, puis peut-être 4 ou 5 matchs.
Alors, Marius et Piteo, et après on va poursuivre.
Bah,
qu'est-ce
non.
T'en penses ? T'es
non.
D'accord ?
Non, moi je suis pas trop d'accord parce que je veux dire au début de la saison on a rabâché parce qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs, faut s'en souvenir. Le Paris Saint-Germain n'a pas eu de préparation à la nouvelle saison et Luis Enrique a parfaitement géré son effectif puisqu'il a fait tourner en Ligue 1. Enfin, il y a eu beaucoup de blessures aussi, faut rappeler Hakimi, Dembélé, Doué aussi ont eu des grosses blessures en début de saison et Luis Enrique il a parfaitement géré cet effectif et la preuve en finale il a réussi à aligner quasiment son 11 à part Donnarumma qui
c'était
est parti.
C'était Stéphane, hein, c'était le but. Hein,
ouais, voilà. Tu es pas d'accord, mais en fait je dis exactement la même chose. Ouais.
Non.
Quel aurait été le classement du Paris? Moi je sais que j'ai fait des articles où j'ai dit à Noël, je disais l'exploit, c'est incroyable de voir que le PSG et a toujours un point de retard ou deux points d'avance seulement sur Lens. Je dis, c'est incroyable avec tout ce qui leur est arrivé. Non, je me pose juste la question, si c'était dans un championnat du niveau de la Première Ligue, est-ce qu'il aurait pu, à Noël, être toujours, je me rappelle plus, je crois qu'ils n'étaient pas champions d'automne, c'est Lens hein, qui est champion d'automne. Est-ce qu'il aurait pu être dans le coup autant avec son équipe? Je pense que non.
Après, je ne sais pas, Paris a quand même été éliminé en Coupe de France, par exemple, alors qu'il a mis la grosse équipe contre le Paris FC. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a quand même des fois des choses où même s'il met la grosse équipe, Paris va perdre. Et puis,
Heureusement pour le sport, quand même. Hein.
Heureusement. Puis, même faire tourner, il ne peut pas éviter les grosses blessures, par exemple. Ouais. Donc, bon, voilà, après, c'est...
Et après, on passe à la suite.
Je trouve que c'est assez compliqué de répondre par oui ou par non à ce genre de questions-là, parce que en effet, Paris est ultra, ultra dominateur en Ligue 1 et bah, ça peut être un peu dégoûtant pour certains et ça peut devenir un petit peu lassant presque de regarder le championnat.
En tout cas, c'est le club maintenant français le plus titré. Hein. Si oui, on oui. prend tout, 14
mais,
Ligue 1,
pas,
16 Coupes de France,
ce qui n'est pas étonnant au vu de la, Ligue, enfin, au vu de la voilà. supériorité financière ouais. du club aussi sur les autres, sachant que
c'est bien
la,
ça
Ligue, 1,
souligner également, oui,
la Ligue 1 va de moins en moins bien, hein, de ouais. beaucoup de clubs cool, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que d'un autre côté, bon, on peut pas non plus reprocher à Paris d'avoir entre guillemets un calendrier plus facile, sachant qu'aussi Arsenal avait énormément d'avance en Première Ligue, pour une année où les gros en Première Ligue se sont pour beaucoup un petit peu pris les pieds dans le tapis en début de saison, puis Arsenal a fait du Arsenal, c'est-à-dire qu'ils ont perdu énormément de points en PL, ce qui a aussi relancé le suspense.
Ouais, on a bien cru qu'à un moment ils allaient flancher d'ailleurs.
Exactement, hein, et c'est, aussi un débat, et c'est aussi un débat qu'on a que très peu, notamment avec le Bayern Munich, qui aussi souffre assez peu quand même en Bundesliga, on peut l'appeler, hein, ils ont vraiment une immense hégémonie aussi, et on n'a pas ces débats-là en termes de calendrier quand eux gagnent ou sont tout le temps dans les derniers carrés de Coupe d'Europe, parce que c'est une équipe aussi exceptionnelle.
Alors justement, malgré tout, il y a une consolation pour les clubs anglais, c'est qu'ils ont gagné les deux autres Coupes d'Europe, la Ligue Europa, hein, Aston Villa qui bat Fribourg 3-0, et puis Crystal Palace qui bat le Rayo Vallecano 1-0, avec nos deux Français, Mateta puis Lacroix.
C'est quand même assez dingue. Ouais. C'est vrai que la Première Ligue aurait pu faire le triplé et c'est aussi surtout fou.
Les Italiens avaient trois finales en 2023, ils ont tout perdu.
Ouais. Ouais. C'est assez fou pour Unai Emery aussi, hein, qui remporte, je sais plus c'est la cinquième, il me semble, cinquième Europa Ligue. C'est assez Ligue dingue comme résultat pour lui.
Stéphane, un petit mot là-dessus.
Ouais, bah quoi, que dire Que dire si ce n'est que ça démontre encore plus la puissance et la force du Paris Saint-Germain. Maintenant, encore une fois, faut reconnaître que la finale de samedi, les deux équipes avaient la totalité de leur effectif à disposition. Il n'y avait pas de gros blessés. Arsenal a eu des blessés. Et Arsenal, je pense, a un effectif en quantité. Arsenal a un effectif en quantité, surtout supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Quand on voit à la prolongation par avance, on connaît les joueurs qui rentrent, les différences qu'ils peuvent essayer de faire et tout, il y a de quoi avoir un petit peu peur quand même, quoi. Tu vois, quand par exemple.
On peut rentrer Martinelli,
Madouéké,
comme ça.
Mais finalement, c'est aussi peut-être une idée qu'on se fait. Parce que moi, je préfère aujourd'hui 10 fois Gonzalo Ramos à Gyökeres, par exemple, sur sa rentrée, elle est complètement dégueulasse, faut dire ce qui est sa rentrée. Non, c'est vrai. Heureusement qu'il a réussi son tir au but, quoi.
Ouais.
Mais sinon, il a pas été bon. Alors, en dehors de peut-être Saka, qui a été longtemps blessé, qui, je pense, même cette finale, il a pas joué à. Je pense pas qu'il est à 100%. Quoi, il est pas à son meilleur niveau.
Parce que franchement, vu la finale qu'il fait aussi, à un moment, il avait le brassard. C'est quand même une des vitrines d'Arsenal. pour un joueur de son statut, c'est quand même assez grave de faire une finale comme ça. Mais
Saka, de Saka, tu parles. Ouais,
mais
ouais,
c'est aussi
ouais.
le jeu d'Arsenal
voilà,
qui n'est pas du tout en valeur. Ouais.
Mais,
quoi, parce qu'il joue pas,
mais ouais. il était quand même les spécialistes du foot anglais. On dit qu'il revenait mieux, effectivement, que le trou d'air d'Arsenal en championnat a été beaucoup aussi au moment où il n'était pas là. Que là, il revenait mieux, mais qu'il n'était pas encore revenu vraiment à son meilleur niveau. Mais après... C'est ça aussi, on parlait de la différence du club. Mmh. Est-ce que quelqu'un, franchement, est-ce qu'on aurait pu penser que Hakimi ferait le match qu'il a fait en finale ? Je veux dire, Hakimi, il y a des gens, moi, personnellement, je n'en faisais absolument pas partie, même si j'adore Warren Zaïre-Emery, mais qui émettait... Moi, je pense que pour ce match, il vaut mieux mettre Zaïre-Emery. Hakimi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, et ceci, cela. L'autre, il a fait, ça a été un des meilleurs joueurs du match.
Il a joué 120 minutes en plus.
Les mecs, ils l'ont.
Il marque sur pénalty.
Et comme le, comment dire, comme ils disent, les kinés, les entre guillemets, les réparateurs du PSG, on se fixe des défis et tout ça et tout. Ils ont réussi. Ouais. C'est absolument exceptionnel ce qu'ils ont fait, quoi. Il a même pas eu de crampe, rien du tout, le type. Hein. Donc c'est un travail quand même qui est exceptionnel de tout un groupe et qui est peut-être aussi.
Oui, c'est ce que j'allais dire. La réussite du collectif, finalement.
Ouais, c'est la du foot actuellement. Hein. C'est le collectif qui l'emporte.
C'est ça.
Arsenal est une équipe qui s'appuie exactement là-dessus. Même on pouvait même penser éventuellement envisager qu'avant le match, ils aient un collectif qui soit encore plus fort, parce que par contre, ils n'ont pas Hakimi, Dembélé, Vitinha, bien que Declan Rice fait un gros match, qui est un super joueur, mais ils n'ont pas ça. Donc c'est sûr que ça fait quelque part la différence. Mmh. Mais encore une fois, moi je résume un truc, la force de Lucien Riquet, c'est qu'il a commencé la saison, c'était la galère sans nom. Je veux faire en sorte d'avoir mon équipe type à la fin du mois de mai pour jouer la finale. Je dois battre. Alors effectivement, il y a un petit hic, un accro dans la saison du PSG, c'est le match contre Paris FC au Parc des Princes.
Ouais, quelque part, ça a peut-être été un bien pour un mal. Ça leur donne un petit peu plus de fraîcheur et de récupération entre les matchs. Justement, le championnat, avant la Coupe de France, Lens qui gagne la Coupe de France, Stéphane, 3-1 devant Nice, il y a eu match. C'est bien, c'est un petit peu une cure de jouvence. Hein. Ça apporte une petite du dynamisme et puis de la joie, cette victoire lensoise qui termine deuxième au championnat derrière le Paris Saint-Germain, qui est venu un petit moment titiller le PSG.
Ouais, qui est venu un petit moment titiller le PSG. Bon, moi, je vais être dur.
Mais c'est bien qu'on se regagne deuxième.
Oui, c'est sûr que c'était Christophe Galtier qui entraînait le PSG. Mais tout le monde a un peu oublié que championnat 2022-2023, Lens termine un point derrière le Paris Saint-Germain.
Ouais.
Là, ils sont quand même finalement...
Bon, il y a eu un petit relâchement psychologique du PSG. Hein. Ils avaient quand même dominé le championnat. Ils se sont un petit peu relâchés dans les derniers matchs.
Oui, mais il y a un moment, c'était très, très chaud. Je me rappelle quand même du PSG-Lens au Parc des Princes. Je crois que Paris gagne 2-1, où il y a eu l'expulsion d'Anso, je crois. Ils avaient aussi une super équipe, quoi. Donc, moi, je pense, mon avis à moi, c'est que Lens termine à 6 points, parce que justement, ce que j'ai dit, quoi. C'est parce que PSG, Lucien Riquet a fait jouer son équipe bis 20 matchs sur 34, quoi. Il a mis son équipe, une équipe bis, quoi. Donc, 20 matchs sur 34. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, effectivement. C'est merveilleux parce que les émotions, le sport, le foot, c'est des émotions. Et cette finale de Coupe de France...
Non, puis c'est un club sympa, un environnement sympa. Première Coupe de France. Hein,
première
Coupe
de France, vous avez gagné une Coupe de Ligue, un championnat.
L'année
de leur 120 ans.
Dans une super belle ambiance. Enfin bon, voilà.
S'il y a un club, c'est vrai qu'on préfère ça que les casseurs.
Non, puis c'est un match sympa en plus. C'est un match sympa parce qu'il y a match quand même. Hein.
Ouais, et en plus, il y a un match.
Mais bon...
2-0, 2-1,
à un moment, ça peut revenir à 2-2.
Ouais, hein. Et surtout quand... à un moment, ça peut revenir à 2-2. Et surtout quand il y a 1-0 pour Lens, c'est un peu contre le cours du jeu. Quoi.
Ouais, ça, c'est le foot. Hein,
Mais ça veut dire que tout pouvait arriver. C'est malheureux pour Nice. Quoi.
Donc, PSG, Lens et Lille qui font la Ligue des Champions. Lille, toujours fidèle à eux-mêmes, toujours dans le top 5. Cette équipe.
Ouais, toujours, c'est sûr que...
Chaque année, si tu regardes, elle est dans le top 5. Hein.
Mais
fait les Coupes d'Europe régulièrement.
Pour moi, Lille, c'est un peu le symbole de... Ouais. C'est un peu le symbole de... Il y a un club qui domine largement, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a un club qui fait une très belle saison, qui profite peut-être, comme je le disais, de ce que fait le Paris Saint-Germain, mais qui fait une très belle saison et qui a un truc extraordinaire, quoi. Et puis après, il y a surtout des clubs qui se plantent, quoi. Ouais. Et qui permet à Lille d'être là.
C'est vrai qu'on a Monaco, voilà. Par exemple.
Ouais, mais on va en parler tout à l'heure.
Et Lyon, effectivement.
Oui. Parce qu'on Lyon, je trouve que c'est plutôt une belle saison. Ils reviennent de loin quand même. Hein. Ils ont failli disparaître. Ils terminent quatrième.
Lyon profite des ratés de Marseille. Oui, Marseille, c'est quand même un
Marseille, c'est le gros raté. Non, Marseille, c'est le gros raté la saison. Parce qu'ils étaient aux trois premières places à un moment. Ouais, non, c'est le gros raté la saison.
Ils perdent 2-0.
Marseille perd les deux matchs contre Nantes.
Non, mais c'est le gros raté.
C'est incroyable. Non,
mais c'est le gros loupé de la saison. Ils sont pas à leur place, quoi.
Monaco a perdu aussi des matchs un peu ridicules. Monaco, ça a été ça toute l'année. Lens a perdu. C'est pour ça, comme je dis, que Lens a perdu aussi à Metz. Donc, il n'y a pas eu non plus de... Mais je trouve que Lille profite des échecs de Marseille et Lyon. Et Monaco, pardon. Lyon aussi, qui tire le maximum de son potentiel. Et puis Lille profite un peu de ça. Lille profite.
Enfin, ils ont tous su, même Lille, à un moment, ils ont eu un petit coup de mou.
Justement, Lille, bien sûr.
Lyon a eu un petit coup de mou. Monaco a eu un petit coup de mou. Marseille a eu un gros coup de mou. Parce qu'à un moment, ils jouaient les trois premières places, les Marseillais.
Exactement.
Bon, à l'arrivée, voilà.
Donc, c'est plutôt. Voilà, donc c'est pour ça que Lille, c'est pas pour moi aussi, c'est bien.
Ils sont toujours là quand même. Ils sont toujours dans les cinq premiers. Ils font toujours une Coupe d'Europe, les Lillois.
Tout à fait.
Tous les ans, ils font une Coupe d'Europe. Hein.
Mais attention, parce que Lille, Bruno Genesio est parti.
Oui.
Et il y a Ancelotti, le fils de Carlo Ancelotti, qui a été annoncé. À voir maintenant les prochaines saisons. Avec ce changement, peut-être que. Voilà. Ça va changer.
On verra. Donc Lyon, on l'a dit, grosse déception pour Marseille, pour Monaco. Tiens, le match sur Strasbourg-Nantes, c'est 0-0 finalement. Hein.
Oui.
C'est assez bizarre quand même. Hein.
Ouais, c'est bizarre. Décision, alors que c'est Nantes et...
Pas de points de pénalité alors que c'est 3-0.
J'ai l'impression que même la Ligue voulait...
Enfin bon, le Paris FC quand même 11e.
Oui.
On a vu le président Ferracci l'année dernière. Bon, finalement, saison correcte. Heureusement que Kondogbia est arrivé parce qu'à un moment la relégation était proche.
L'année dernière, à l'époque, on avait dit à mon avis, on aurait demandé, je pense qu'on aurait tous dit, on termine.
Puis ils ont gagné deux matchs contre le PSG en plus.
11e ou 12e ou un truc comme ça dans ces eaux-là. Quoi. Donc, mais effectivement, heureusement que Kondogbia est arrivé. Quoi, peut-être que Stéphane Gilliard, mais qu'ils ont fait quelques...
Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'était chaud. Hein.
Ils ont eu des blessés aussi, joueurs absents, mais il a fallu changer d'objectifs, d'idées, de philosophie. Alors, ça ressemble plus à Arsenal qu'au PSG, mais bon...
Alors, il y a deux équipes qui se maintiennent quand même, le Havre, encore une nouvelle fois, hein, et puis surtout au Serre, Stéphane, on a souvent parlé dans la saison, cette équipe, elle joue bien au ballon, elle a réussi quand même à éviter les barrages.
Oui, tout à fait. C'est vraiment exceptionnel. Surtout qui était plus forcément obligatoire quand on sait que Nice n'a pas réussi à battre Metz, mais
match... Enfin, Nice qui se maintient quand même.
Oui, voilà. Ouf. Au final.
Ouais.
Avec moins de temps de récupération que ça détient, Nice se maintient.
Ouais, et donc... Auxerre, c'est bravo, quoi. Bravo Auxerre, ce qu'ils ont fait. De toute façon, on en parlait souvent le lundi. Oui. Hein, on disait que c'est une équipe qui ne mérite pas, quoi. Qu'il y avait beaucoup d'équipes, dont notamment celles qui sont derrière, hein, Nice, Nantes, Metz, mais aussi même d'autres équipes, qui ont fait des bons résultats, comme Angers, comme
Angers 13e avec leurs moyens, c'est bien,
voilà.
Hein, cette équipe.
Mais moi, je trouve que Paris FC, je trouve que Auxerre était beaucoup plus agréable à avoir joué, était beaucoup plus sympa à avoir joué un match d'Auxerre. Et quand tu regardes les résultats, moi je me rappelle avoir suivi un Lens Auxerre, où c'est le fameux, on a vu pas mal de vidéos, je crois, de la colère de Pierre Sage à la mi-temps dans le vestiaire, là, dans les reportages sur Pierre Sage.
Pourtant, c'est un Pierre Sage en colère.
Et ce match-là, je crois que c'était Lens. Il devait y avoir 0-0 à la mi-temps et il a fallu qu'il pousse un peu une gueulante pour que ces joueurs, ils ont de la chance de battre Auxerre. Donc, Auxerre, ça aurait été. Moi, ça, je trouve que ça aurait été vraiment très dommage qu'ils descendent.
Bon.
Quoi.
Nantes et Metz qui descendent. Bon, Metz, c'est du classique. Hein. Chaque année, ça monte, ça redescend. Nantes, il fallait s'y attendre depuis quelques temps.
En général,
quand on a su récraque le maintien pendant des années, au bout d'un moment, on passe à la trappe. Hein. Énorme gâchis quand même. Hein.
Ouais.
On est d'une génération où on a connu une belle équipe nantaise quand même.
Ouais, hein, Stéphane Lépia. Encore s'il y a un bon budget, hein, ils ont un budget, ils avaient un budget, en tout cas un budget déclaré qui était. Mais bon, le comme on dit, hein, le foot a ses raisons aussi que la raison ignore, parce que vous avez, il y a eu la fameuse passe d'armes avec Louis, entre Valdemar Quita et Luis Castro, là où quoi, surtout. Il dit j'ai un entraîneur qui va être deux fois relégué. Lui, il est parti en Espagne et il a obtenu le
maintien.
Il a obtenu le maintien de son équipe. Donc, ça veut dire qu'il peut faire des bonnes choses quand même. Donc, peut-être qu'il faut lui laisser plus de temps aussi. Et puis, enfin, est-ce que Valdemar Quita va apprendre de ses erreurs on ne sait pas.
Meilleur buteur, Le Paul, 21 buts. Meilleur passeur, donc Thomasson, 10 passes. Il y a eu 863 buts dans ce championnat. Ça fait une moyenne de 2,82. C'est un tout petit peu donc moins bien que l'année dernière. 911 buts, c'était 2,98. Par contre, c'est beaucoup mieux qu'en 2024. 826 buts pour une moyenne de 270 par match. Et puis surtout, les spectateurs aussi. Hein. Ça a été repris. Hein. 27 588 spectateurs. C'est une très bonne moyenne et on frôle même. Ça fait 8 millions, plus de 8 millions sur l'ensemble de la saison. Et avec la Ligue 2, ça fait plus de 10 millions. Donc c'est bien.
Ouais, parce que la Ligue 2 a augmenté aussi. Oui. Hein, indépendamment, indépendamment, la Ligue 2 a augmenté également. Donc finalement, ça veut dire que. Il faut peut-être trouver qu'on cherche un peu les raisons pour essayer d'améliorer. On a quand même l'impression que tout n'est pas très bien fait pour améliorer l'image et les droits TV et tout ça. Parce qu'on ne mérite pas ça. Je veux dire, si que les Anglais ils aient un milliard ou les Allemands, et puis que nous, on ait 500 millions ou 600 millions, à la limite, ou 700 peut-être. Mais là... je crois qu'au total, il y a 150 millions ou 180 millions à se partager. Il y a vraiment un gros problème quelque part. Il y a un gros problème, à mon avis, de structure. Hein.
Alors, la Ligue 2, quand même, tout le monde dit que ça s'est nettement amélioré au niveau même de la qualité des matchs. La belle surprise, bon, 3 remontes, c'est Le Mans quand même, qui a été joué les troubles faites, quand même. On ne s'y attendait pas à cette équipe qui revient de loin, qui a failli disparaître et puis qui retrouve la Ligue 2. Et fiasco pour Saint-Etienne, trop d'occasions ratées, trop d'occasions manqué à l'image du match de barrage. Ils resteront donc en Ligue 2 la saison prochaine. Ouais. Et puis autre coup de cœur, c'est Rodez, quand même cinquième, qui a fait une super belle saison. On en a beaucoup parlé.
Ouais, on a beaucoup parlé aussi cette saison, avec un tout petit budget. Pour rappel, pour ceux qui coûtent 25 millions de budget pour Saint-Etienne, 7,5 pour un club comme Rodez, par exemple, pour expliquer à la fois la réussite peut-être de l'autre et l'échec de l'un. Mais ça veut dire quand même que c'est pareil pour Lens, Lens qui fait quand même une belle saison. C'est quand même que quand et l'échec de Marseille, quand on travaille bien, on y arrive, quoi. Il faut bien travailler, notamment Lyon qui a extrêmement bien travaillé pour son recrutement.
Oui, mais moi, parce qu'on a mis des gens du cru, on a pu des businessmen comme il y a eu un moment.
Par exemple, pourquoi Lyon arrive à obtenir au mois de janvier le prêt de Hendrick et que Marseille n'y arrive pas. Est-ce qu'ils ont essayé? Je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas essayé. Ils sont peut-être mis au-dessus en disant on n'est pas à ce niveau-là, on a ce qu'il faut, on a des débuteurs. C'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi, je peux en redire, pourquoi Florian Thauvin, qui était limite moqué au mois de mai, vous voyez sur les réseaux, vous reprenez, vous, Sol Thauvin à Marseille, il n'y avait pas un des Marseillais pratiquement qui disait, qui a quand même été sur les 10 dernières années, même sur une saison, je crois que c'est la saison 2017-2018, qui a même des meilleures stats encore que Dimitri Payet, qui tout le monde disait, à l'époque, il se battait avec le Paris Saint-Germain, le seul joueur de l'OM qui a une place dans la rotation au Paris Saint-Germain, c'était toi. Comment expliquer qu'il revienne à Lens et pas ailleurs? Il n'a pas dit non. C'est pas lui qui a dit à Marseille non, je veux pas revenir, quoi. Alors on voit quand même les gens qui travaillent bien, quoi. Et peut-être je sais pas pourquoi ceux qui préfèrent mettre 30 millions de l'argent énorme dans certains joueurs et tout, alors qu'ils et que de faire des choses simples plus simple et tout, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans l'autre? Mmh. Et est-ce que Saint-Étienne a fait n'importe quoi?
Bien sûr.
Au niveau des recrutements, des entraîneurs, ils ont attendu, ils ont été, je peux en dire des tonnes, ils ont été cherchés quand ils ont décidé de se débarrasser d'Aloglio, ils ont été chercher un entraîneur en Norvège, ils étaient encore en Ligue 1, on était au mois de novembre, je crois, il avait encore largement la possibilité de sauver le club. Ils ont fait des résultats catastrophiques, ils sont descendus, et puis ils ont attendu très très longtemps avant de décider de changer. Peut-être que Philippe Montagnier, ou peut-être qu'un autre entraîneur aurait fait aussi bien. Et il faut essayer de bien travailler. Alors après, il y a des incidents, des choses, Nice, ce qui se passe avec Nice, par exemple...
Ouais, mais ça, c'est des mauvaises habitudes. Mais enfin, bon, quand ils comprendront que ça leur apportera rien et que de toute façon, ils seront pénalisés et qu'ils perdront les matchs, voilà. 775 buts, 2,53 de moyenne par match en Ligue 2. Ça a été un petit peu moins prolifique que la Ligue 1. Alors, tu parlais des clubs qui travaillent bien. Nous, on en connaît un, c'est en National.
Ah ouais.
C'est Fleury Mérogis.
Exactement.
Hein, avec Pascal Bovis. Alors, on était au dernier match. Malheureusement, il n'a pas manqué grand-chose, hein, puisque ça a été un scénario un petit peu cataclysmique en toute fin de match, hein, puisque donc l'équipe de Fleury avait marqué par Farad, le meilleur buteur d'ailleurs de ce championnat de National, 61e minute, se retrouvait à 10 avec l'expulsion d'Aubourg à la 72e minute, et puis après bah, on a voulu effectivement préserver le résultat, pénalty donc de Rocha Santos à la 87e minute alors que donc l'équipe de Rouen poussait, et puis bah, ce qui est arrivé donc en toute fin de match, hein, faille 91e minute, il marque le seul et unique but de sa tête qui prive malheureusement Fleury Mérogis des barrages. Surtout que Fleury, après avoir mené 1-0, ils ont eu une double balle de 2-0 et le gardien de Rouen, Maraval, a été à la parade. C'est la belle équipe de ce championnat de National cette année, Stéphane.
Ah oui, c'est ce qui est l'histoire. C'est la belle équipe du championnat et c'est aussi une histoire extraordinaire parce que effectivement, tout à l'heure, on parlait de... J'ai eu l'occasion de faire une longue interview de Pascal Bovis, qui expliquait, qui disait finalement, je ne me rappelle plus exactement la phrase qu'il avait, mais qu'il était surpris sans l'être, en fait.
Oui,
parce qu'en fait, il dit, quand ils sont montés...
Voilà, surprenant, mais pas étonnant.
Voilà,
c'est
un peu ça. Quand ils sont montés en National, l'été dernier, il a décidé de ne pas changer son groupe.
Oui.
Il a décidé de faire confiance à son groupe.
Mmh.
Donc... c'était quand même un sacré pari, quoi, à part un ou deux blessés qui ont été remplacés, de conserver le même groupe. Alors, voir le groupe avoir ses résultats, alors c'est exactement le groupe qui jouait en National 2 la saison d'avant, ça peut être un petit peu...
Une équipe qui jouait la 6e, 7e place, hein, c'était les objectifs de début de saison, 4e, ils se sont vraiment piqués au jeu à un moment. Hein,
ouais, exactement.
Ils y ont cru. Ouais.
Ils y ont cru, mais ils ont aussi bénéficié, comme on parlait tout à l'heure de Lille, des faux pas, répétitions.
Alors, on va écouter donc d'abord Régis Brouard, juste après le match, alors c'était il y a 15 jours, hein, on va le remettre dans le contexte du moment, juste donc après le match, Régis Brouard, l'entraîneur de Rouen, qui déjà se projetait dans le barrage, même si ça ne lui a pas réussi malgré tout. Régis Brouard, donc l'entraîneur de Rouen, venu battre Fleury sur le fil de Buzyn.
Bon, Régis, ce scénario incroyable, hein, ce soir, vous étiez mené, je pense que dans la tribune tout le monde pensait que c'était terminé, hein, et puis finalement vous renversez complètement la situation, avec un but à la fin de faille qui n'avait pas marqué un but, je crois, en 25 matchs, enfin c'est un truc de fou. Comment t'as vécu ça, toi, sur le banc?
La magie du football, qu'est-ce que je vous dise de plus? Cet abruti, il n'a pas marqué un but de l'année, il arrive à marquer le but de la victoire dans son domaine le plus fort, le domaine aérien. Scénario de fou, on a fait un vrai match, on a fait une composition d'équipe où on a pris beaucoup de risques. Les mecs, ils ont été incroyables, même d'y croire, on sentait qu'il y avait une énergie et le pénalty a renvoyé une énergie. Alors après, il y a des faits de jeu et de match qui font que le carton rouge du joueur de Fleury leur fait beaucoup de mal, mais c'est jamais simple, hein. Vous êtes quand même mené 1-0 là-dessus et... En fait, mon équipe, je crois que c'est une série Netflix, on n'en connaît jamais la fin.
Voilà. Oui, il y a le barrage, mais non.
Il y a les barrages et j'en connais pas la fin. On va encore passer une semaine ensemble, entre la réception de mardi Et dimanche, le match retour. Il va falloir récupérer. Mais il y a des victoires comme ça qui amènent de l'énergie. On va récupérer sûrement plus vite. Le scénario qui fait comme ça, les mecs qui vont être dans leur tête, il y a de la confiance qui va se dégager. Je voudrais dire un petit mot au public quand même, les supporters. C'est quand même incroyable et la moindre des choses, c'était de leur rendre ça. Et voilà, les joueurs ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait d'une façon admirable, je trouve.
Jamais douté dans cette rencontre, Régis. T'étais persuadé. L'engagement notamment était bon dès le départ. Hein.
Oui, j'ai douté parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a quand même des occasions, on a les moyens d'ouvrir. Après, il y a un moment important du match, c'est le double arrêt de Maraval, hein, qui peuvent marquer à 2-0. Ouais, moi, je vous l'avais dit, ça se jouerait à peu de choses jusqu'à la fin. Et ça s'est joué jusqu'à la fin dans les arrêts de jeu. Mais moi, je trouve que sur la physionomie du match, on s'est créé quand même beaucoup d'occasions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions. Et on a été là chercher.
Voilà, ouais, mais malheureusement, bah, ils ont pas gagné ce match de barrage, Stéphane, puisque Laval donc reste en Ligue 2. Il y a eu 1-1 à Rouen et victoire de Laval, ouais. 1-0.
Donc, et pourtant, quand même, ils sont bien. Ils n'ont pas été vernis parce qu'ils ont joué quasiment une heure, je crois, à 10 contre 11, Rouen. Et je peux vous dire que ils étaient plus près du. C'était eux qui dominaient que Laval. Il n'en est pas. Depuis, on a appris le départ de l'entraîneur de Laval également.
Ouais. Allez, David Vigne, l'entraîneur donc de Fleury Mérogis, qu'on avait naturellement trouvé après ce match très abattu, c'est normal.
David, je pense que la déception est énorme ce soir.
Ouais, c'est. C'est pas le mot. C'est très, 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 très cruel. Mais c'est le football. Voilà, hein, que dire, comme je dis aux joueurs, ils méritent pas ça, même si j'ai une maxime dans la vie, c'est qu'on a que ce qu'on mérite. Là, pour le coup, je suis pas certain qu'on méritait une fin comme ça. Après, Rouen a poussé jusqu'au bout. Étant donné le résultat à Versailles, il leur fallait pas grand chose pour basculer, donc. Bah, ils ont joué le coup jusqu'au bout, et puis nous on n'a pas su tenir ce score.
Je pense que tout le monde est abattu ce soir.
Oui, il y a beaucoup de déceptions, mais c'est logique parce que on a fait le match qu'on voulait. Encore une fois, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de personnalité malgré la grosse pression qui pouvait entourer ce match. Et j'ai apprécié à sa juste valeur le comportement de l'équipe. Et donc oui, c'est la déception est à la hauteur de la saison qu'on a faite, qu'ils ont fait. Quand on y croit comme ça jusqu'à la, je sais pas, 90e, ou c'est dur.
En 3 minutes,
l'abattement, il est, ouais, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Vous avez le droit d'être en colère, d'être déçu, d'être énervé. Évidemment, c'est des sentiments qu'il faut pas, qui sont tout à fait normaux et logiques. Voilà, c'est comme ça. Comme l'a dit le président, ça enlève pas la magnifique saison que l'on a faite et tout ce qu'on a pu partager comme émotion avec le public. Quand je vois qu'il y avait aujourd'hui, je crois, 6000, voilà, c'est tout à l'honneur des joueurs. Mais c'est dur. C'est clair que c'est dur. Après, on n'était pas en Ligue 2 pour autant. Hein. Il y avait encore deux matchs, mais je pense que quand même. Pardon ? Oui, voilà. Je crois que on n'aurait pas volé notre place si on avait rejoué mardi.
Surtout qu'il y avait une balle de 2-0. Hein.
Oui. Ouais, deux même. Ouais.
En début de saison, on a vu qu'il y a eu du progrès, il y a eu beaucoup de cohésion d'équipe. C'est une vraie équipe soudée. Si vous avez quelque chose à dire à vos joueurs ce soir, ça serait quoi ?
Merci. Simplement, merci pour la saison. Effectivement, ils ont énormément progressé. Après, l'état d'esprit, il y était dès le début, de toute façon, dès l'année dernière. C'est vrai que la dynamique du club, de l'équipe, elle est très très bonne. Et on savait que ça, on l'aurait. Voilà, on ne savait pas si on allait être au niveau techniquement, tactiquement, sur la division. Mais on savait qu'en termes d'état d'esprit, on serait une équipe redoutable à jouer. et on a été bien plus que ça.
Je vous ai vu parler avec l'arbitre à la fin du match. Est-ce que le tournant, c'est ce carton rouge? Moi, j'ai vu les images. J'ai pas l'impression que ça vaut un rouge direct.
Non, je parlais de la main plutôt, qui me paraissait difficile à siffler. Alors oui, il y a certainement main, mais je vois pas comment il peut l'enlever. C'est très proche. Il a une position, je sais pas. Alors après, j'ai pas revu. Peut-être qu'elle est pas naturelle. Moi, il me semble que oui, mais.
Haute, mais. Ouais. Le ballon va pas vers le but, il va de l'autre côté en fait. Mais bon, je sais pas. Si... Ouais.
Donc on a vu ça, je crois, en Ligue des Champions où le ballon va de l'autre côté. Là, je la voyais pas du tout comme ça. Ben ouais. Non, puis le rouge, oui. Moi, je suis très loin, mais l'adversaire a bien joué le coup. Hein, a crié, a resté au sol. L'arbitre s'est précipité. Ouais, c'est très sévère.
Est-ce que justement c'est le tournant?
Oui, oui, bah, ouais. Oui, forcément, hein, puisque bon, un de moins, eux qui poussent, voulant marquer, malgré tout, la balle du 2-0, on l'a à 10. Donc, il fallait bien la négocier, mais oui, ça a été plus difficile à 11 contre 10, évidemment, même s'ils n'ont pas d'occasion, mais on savait que c'était une équipe qui s'entrait beaucoup, donc c'est regrettable de le prendre de la sorte, mais bon, voilà, c'est comme ça.
Elle se termine brutalement ce soir. Alors les vacances vont arriver là, mais comment on se relève comme ça? Est-ce que justement là, ça va faire du bien qu'il y ait plusieurs semaines avant la reprise?
Je sais pas parce que encore une fois, comme j'aurais dit, c'est trop cruel de se quitter comme ça en fait. Voilà, c'est se quitter comme ça là. Je crois que personne n'y était préparé et donc je sais pas du tout. J'avais du mal à trouver les mots d'ailleurs pour leur dire quoi que ce soit. Et ouais, là c'est les vacances. Je sais pas du tout.
Vous quittez, mais il y a peut-être des joueurs, on ne sait pas lesquels, qui partent définitivement du club.
Oui, il va y en avoir. Oui, il y en a qui seront pas reconduits. Et c'est encore plus cruel de se quitter comme ça. Enfin, moi, je vais faire en sorte, je pars pas de suite. Je vais rester encore là quasiment une semaine pour faire les entretiens et dire des choses pas très agréables à certains. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est mon métier. Mais c'est vrai que là, ouais, c'est dur de se quitter comme ça, surtout, c'est ça, de savoir que c'est la dernière fois qu'on se voit là, maintenant, là, pour certains. Ça va faire bizarre quand on va se retrouver. J'espère qu'on aura évacué tout ça pour bien repartir. Parce que la saison à venir s'annonce encore plus difficile que celle-ci.
Pascal, ce soir c'est une grosse déception naturellement, hein, passer si près comme ça.
Ah oui, c'est vrai que c'est le sport malheureusement, mais c'est vrai que c'est très très dur. C'est très dur parce que bon, on a le match en main, il y a une erreur, on se fait sortir bêtement alors qu'il n'y a pas de danger, voilà, on joue à 10. Le deuxième fait de jeu, c'est ce penalty. Il est pas sifflé hein, en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est le même. Hein. Mais là, il est sifflé ici, donc il va falloir qu'on me réexplique. Il peut pas y avoir deux règles et deux interprétations de la règle différentes, ça c'est pas possible. Et c'est vrai que on a le match en main, on a une balle de 2-0 sur l'action d'après, on prend le rouge et après ça s'enchaîne. En 10 minutes, on est passé du rêve à l'enfer, quoi. Et c'est la dure loi du sport. Maintenant. Il faut pas non plus galvauder toute la saison qu'on a fait. On a fait encore un gros match aujourd'hui face à une grosse équipe. On ne nous attendait pas là quand même. Hein. Donc je pense qu'il faut. C'est sûr qu'on peut avoir des regrets, mais on a fait notre match. Donc à partir du moment où on fait notre match, voilà, c'est déjà. On n'est pas passé à côté. Et puis on a fait quand même une deuxième grosse partie de saison énorme. Et donc ça, il faut que j'ai félicité les joueurs, le staff, parce qu'ils le méritent. Et je pense qu'il méritait un peu mieux. Et là, je trouve que ça a été très, très sévère aujourd'hui. Vu le match, comment il était, c'est vraiment très, très, très dur et très, très sévère.
Qu'est-ce qu'on dit dans les vestiaires, quoi, quand il se passe une telle fin?
Bah justement, il faut pas... Faut féliciter les joueurs, faut féliciter le staff, parce que même si la saison se termine aujourd'hui, on a fait un truc magnifique. Et on sait que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus dur encore parce qu'on sera attendu. Mais la vie, c'est comme ça. Il faut se battre tous les jours. Comme je l'aurais dit, j'ai 64 ans et moi, je travaille tous les jours et j'y vais avec bonne humeur. Mais je sais que c'est pas facile, qu'il faut se battre tous les jours. Donc, il faut que tout le monde le fasse. Et voilà, ils vont aller se reposer et puis ils vont redémarrer, j'espère, une belle saison l'année prochaine.
Ça va être dur de repartir.
Non, c'est pas dur. C'est le foot. Vous savez, nous, on a fait... ça me rappelle la Nationale 2. La Nationale 2, on a fait 3 fois deuxième et la quatrième année, on est monté. Donc, forcément, quand t'es deuxième, une fois, on a terminé au même nombre de points. Hein. C'est encore l'avérage. Donc, c'est encore plus dur. Mais en même temps, bon, on a un fond de jeu. On a un esprit. Donc, et puis, on a envie de jouer au ballon. Donc, ça, c'est... Maintenant, bon, en face, il y avait du monde aussi. C'était un vrai gros match. Un vrai très, très gros match. Maintenant, voilà, c'est...
Est-ce que c'est ta plus grosse déception, désillusion depuis que tu diriges le...
Non. Non, il faut pas... C'est pas une désillusion, c'est... au contraire, je reste positif. Personne nous attendait là, donc il n'y a pas de désillusion. C'est déjà ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Bien sûr, les joueurs sont déçus. Bien sûr, à 10 minutes de la fin, comme ça, c'est un truc de fou, quoi. On a le poteau, on a la queue tout de suite derrière, et puis ça s'enchaîne dans l'autre sens. Bon, c'est le football. C'est un peu dur, comme je dis, le pénalty, il les remet vraiment dedans parce qu'ils n'y étaient pas, même à 10 contre 11. Et pénalty très sévère, puisque. Il n'a pas été sifflé de même fait de jeu, de mesures différentes. Et ça, c'est dur. C'est ça qui est dur.
L'année prochaine, il y aura le challenge, enfin la VAR de Ligue 3.
Oui, voilà. Mais
dans ce genre de situation, ça aurait pu changer.
Certainement, ouais. Ça laisse le temps à l'arbitre de prendre son temps pour décider. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Voilà.
Est-ce qu'on poussait, là ce soir, David disait, voilà, on va se quitter, mais pour certains, c'était le dernier match. Est-ce que l'on sait ceux qui vont quitter Fleury
Lorenzo qui doit arrêter normalement, capitaine, ça il l'avait dit, donc sauf si on montait d'un cran, bon, faudra qu'on fasse derrière, parce qu'il tenait quand même l'équipe. Donc je le félicite, il aurait préféré une fin plus heureuse, je pense. C'est quand même 168 matchs de national au club et 682 au club en tout, donc c'est beau pour lui. Félicitations à lui. Et puis on a effectivement peut-être un ou deux joueurs qui vont arrêter. C'est la vie de. C'est notre vie à nous. On garde toujours notre groupe. Hein, le groupe a re-signé, il n'y a pas de souci, mais. Il faudra régénérer un peu parce que c'est normal, il faut ramener un peu de dynamisme, il ne faut pas qu'on s'endorme, mais il y a eu des belles choses encore aujourd'hui.
Et puis un grand merci au public, Pascal.
Ah oui, le public, mais super public. C'est rare de faire venir 6000 personnes à Bobin, hein. C'est très rare. Donc, le Sion Stadium, pardon. Donc ça, il faut qu'on continue ça, il faut qu'on fasse du jeu, qu'on fasse du spectacle et puis qu'on arrive à... Voilà.
Si vous avez un message à passer à ce groupe. Ce groupe qu'on a vu en début d'année et maintenant, on voit que ce n'est pas du tout le même groupe. Il y a eu du travail qui est fait. Il y a la cohésion d'équipe. On a vu beaucoup de choses avec cette équipe. Ça serait quoi le message à le faire passer?
Justement, c'est un message d'espoir parce qu'effectivement, comme je dis, on n'a pas forcément les meilleures individualités. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun de nos joueurs qui est dans l'équipe type de National. Aucun. Et pour autant, on est dur à jouer, quoi. Et les gens disent vite, on va jouer Fleury. Donc, il faut continuer dans cette cohésion. Il faut continuer dans le progrès parce qu'on fait un vrai travail à l'entraînement, parce qu'il y a un vrai travail collectif de faire à l'entraînement. Et il faut qu'on continue ça. Maintenant, ça sera plus dur, je l'ai dit, hein, ça sera. Bon, après, l'année prochaine, c'est différent, il y a les playoffs, il faut arriver dans les 6 premiers. Déjà, notre première mission, ça va être de se maintenir en toute humilité, c'est la base. Et puis ensuite, essayer d'accrocher les playoffs, et puis après, on verra ce qui se passe, peut-être, on verra. Mais étape par étape, et restons humbles. Dans le sport, ça va très vite, mais dans le football, ce qui est important, c'est souvent maintenant, c'est un sport individuel. Et nous, on l'a gardé en sport collectif. Et c'est ça le plus important, je crois.
Fier de ses équipes, fier de son club.
Ah oui. Bon, je suis super. Je t'aurais dit, franchement, la saison qu'ils nous ont fait, c'est pas parce que là, il nous manque 10 minutes sur une saison. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc il faut les récompenser, les applaudir. Voilà.
Merci Pascal. Voilà, parole très sage de Pascal Bovis. Juste un petit mot, Stéphane. Versailles qui est cinquième, et puis le Paris 13 Atlético qui assure quand même le maintien ric-rac.
Ouais, tout à fait. Bah, ils ont l'avant-dernière journée. Hein, ils ont
deux points seulement. Hein.
Ouais, ils ont joué la dernière journée en étant assurés du maintien. Bah, ils avaient, on en parlait là, tout à l'heure. Ils avaient changé d'entraîneur et engagé un entraîneur Manuel Da Costa pour les cinq derniers matchs. Et bah, en quatre matchs, il n'a eu besoin que de quatre pour faire sauver le club. Maintenant. Soyons attentifs à ce qui va se passer pendant l'été pour le Paris 13 Atlético. Ouais, ouais. D'un point de vue personnel, je parierai pas sur le fait qu'ils soient au rendez-vous de la Ligue 3. Mais ils font ce qu'il faut. On en parlait aussi, notamment ils vont aller jouer à Charletti, puisque les terrains synthétiques, c'est un synthétique, c'est ça un peu les et ça, les terrains synthétiques sont interdits.
Il y a des normes à respecter.
Voilà, exactement. Ouais. Mais le Versailles, Versailles, c'est quand même un peu les regrets. Il se trouve que justement, Versailles, trois jours avant ce match, j'étais avec, avec un joueur de Versailles et on discutait de ce match. Et c'est vrai que des possibilités. C'est-à-dire qu'avec le score 2-1, il jouait quand même Versailles. Quand on regarde, ça peut être un peu fou. Il jouait Versailles le dernier, Saint-Brieuc, qui était déjà relégué. Il fallait qu'ils battent, si jamais Rouen battait Fleury, il fallait qu'ils battent ce relégué Saint-Brieuc avec un but de plus.
Ouais. Et puis ils ont fait 2-2 et en plus Saint-Brieuc réduit à 10. Voilà.
Et ils ont joué une grande partie du match réduit à 10, Saint-Brieuc, et Versailles n'a pas été gagné, n'a pas réussi à gagner, ne serait-ce que 3-1 par exemple, ou comme il y a eu, pour terminer 3e. Donc ils peuvent avoir quelques regrets.
Allez, un petit mot sur les féminines, Lyon, qui a survolé une nouvelle fois la saison. Ils ont obtenu un nouveau titre de championne de France. Ils ont largement battu le Paris FC.
Voilà, bah, c'est ça. Exactement. Ce qui était plus un peu malheureux, c'était surtout la demi-finale entre le Paris FC et le Paris Saint-Germain. Quand on voit que le Paris Saint-Germain a fait, je sais pas combien, ils ont dominé peut-être 20 tirs à 2. Ils ont dominé tout le match et ils prennent un but à la fin. Bon, ça, c'est la beauté du sport, hein, du foot, en tout cas, hein, tant mieux. Ouais. Et puis, qu'à le Paris FC, c'est a pas existé du tout en finale. Ouais. Maintenant, on parle souvent du Paris Saint-Germain qui archi-domine la Ligue 1 avec des moyens financiers bien plus importants que les autres. Bon, on pourrait parler aussi de l'Olympique des Lyonnes, qui archi-domine l'Arkéva Première Ligue avec des moyens financiers aussi bien plus importants. Quoi. Ouais. Et c'est parce qu'ils décident, eux, de le faire, alors que le Paris Saint-Germain, c'est incroyable question. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain n'en a rien à faire de son équipe féminine.
Voilà, en tout cas, c'est pour ça qu'elles ont écrasé donc le PFC 5-0. Elles avaient aussi gagné la Coupe de France 4-1 devant le PSG et la Coupe de la Ligue 1-0. Mais c'est aussi peut-être pour ça qu'elles ont perdu la finale de Ligue des Champions 4-0 face à Barcelone.
Hein. Ouais, bah, ça
peut-être ce manque de compétition sur l'ensemble du championnat. Voilà.
Ouais, peut-être.
Merci Stéphane, tu vas passer la place à l'autre Stéphane. En attendant, il y a le journal des sports qui nous attend avec Théo. Journal sur la quinzaine Théo. Hein.
Ouais, et merci Philippe, on ouvre ce journal des sports par du cyclisme. Vingegaard remporte le Tour d'Italie. Alors titre déjà assuré hein, avant la dernière étape, il termine devant l'Autrichien Félix Gall et l'Australien Jal Hindley. Le Danois marque par la même occasion l'histoire en rejoignant le cercle très fermé des coureurs ayant remporté les trois grands tours, qui sont donc le Tour de France, le Giro et la Vuelta. À titre d'exemple, on a par exemple Félix Gimondi, Eddy Merckx ou encore Alberto Contador qui l'ont déjà fait. On passe au sport mécanique et on file à Montréal pour le Grand Prix de F1, déjà vainqueur sur les trois dernières courses, Kimi Antonelli signe un quatrième succès consécutif, profitant de l'abandon de son coéquipier George Russell. L'Italien devance Lewis Hamilton et Max Verstappen et a désormais 43 points d'avance au classement pilote sur son dauphin et coéquipier de chez Mercedes. En rallye WRC, Elfyn Evans continue de creuser l'écart au classement pilote. Au Japon, l'anglais s'est largement imposé. Il a le bord de la deuxième partie de saison avec 20 points d'avance sur son poursuivant Takamoto Katsuta. En moto GP, Marco Bezzecchi s'impose à domicile. L'Italien termine devant Georges Martin et Francesco Bagnaia. Un succès qui conforte sa première place au général, 17 points devant l'Espagnol. Et allez, on sport de combat maintenant avec la malheureuse première défaite en carrière de Bakary Samaké. Ouais. Souvenez-vous, le Français devait combattre à Paris il y a un peu plus d'un mois maintenant, hein, lors d'une grande soirée qui a été malheureusement annulée car l'adversaire de Tony Yoka a été contrôlé positif à un test antidopage. Opposé à l'Américain Ermal Adriberge en Allemagne, Samaké s'incline au point dans un combat qu'il n'a jamais su enflammer. Rugby maintenant et magnifique doublé français. D'abord en Coupe des Champions, l'Union Bordeaux-Bègles s'impose en finale 41-19 face à Leinster. Et de l'autre côté, Montpellier remporte le Challenge Cup après sa victoire 59-26 en finale face à l'Ulster. 25e journée de top 14 et victoire du Racing 92 face à Clermont, score final 41-13. Le Stade français s'impose également 38-21 contre Bayonne. Au classement général, le Stade français est 3e et le Racing 5e. Basket maintenant, notre Français Victor Wembanyama jouera sa première finale de NBA à seulement 22 ans. Élu MVP de la finale de Conférence Ouest, le Français a mené les San Antonio Spurs à la victoire dans le match 7 face à Oklahoma City. Une victoire 111-103. Les Spurs seront opposés aux Knicks de New York, vainqueur à l'Est des Cleveland Cavaliers 4-0. Et en Betclic Elite, l'heure des demi-finales de championnat a sonné. Ce soir, le premier match entre Monaco et Nanterre a lieu. Demain soir, le Paris Basket défie Cholet dans cette autre demi-finale. Handball maintenant, Montpellier remporte la Coupe de France chez les hommes, victoire 27-24 face au HBC Nantes. Chez les femmes, Metz triomphe de Dijon dans cette rencontre des Titans, victoire des Messines 33-21. Dans le championnat, 28e journée. Victoire 34-31 du PSG face à Nantes, match nul 35 partout pour Tremblay. Au classement, Paris solide leader désormais avec 4 points d'avance sur Nantes et Tremblay pointe à la 7ème place. En Ligue Européenne, 4ème place malheureusement pour Montpellier dans le Final Four. Après sa défaite en demi-finale, le club de l'Hérault s'incline face à Flensburg 32-30 dans ce match pour la 3ème place. Et enfin, 26e et dernière journée de championnat féminin, victoire du Paris 92 face à Stella Saint-Maur 32-29. Au classement, le Paris 92 termine cette saison 9e et 12e place pour Stella Saint-Maur.
Merci Théo pour cette quinzaine bien bien complète. Hein. Il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière, donc on se devait de revenir sur ces beaux exploits sportifs. On a comme prévu une championne du monde, à nouveau dans notre studio. Bonsoir Myriam, ça va ?
Bonsoir Philippe, ça
bon,
va ?
Bon, il se passe quoi à Roland-Garros ? Je vais poser la même question à Stéphane Sorindo. Bonsoir Stéphane.
Ouais, bonsoir ouais. À tous.
Et puis Vanessa aussi, c'est complètement fou. Alors Alcaraz qui fait forfait, Fils qui fait forfait la veille de la quinzaine, ensuite Sinner et puis Djokovic qui tombe dès les premiers tours. Pareil pour Boisson, bon, ça on s'y attendait un petit peu, qui tombe sur les premiers tours. Coco Gauff et Sansek aussi à la trappe. Il se passe quoi
Rybakina aussi.
Rybakina ouais. Aussi. Qui s'est fait
et il
sortir.
Se passe quoi en 2026 ouais. Sur Roland-Garros.
Est-ce que c'est la chaleur, la canicule?
Ça a toujours été au moins dur Roland-Garros.
Mais là, c'est particulièrement long. Et là, ouais, on ne sait pas par où commencer. Quoi.
Ouais.
Que des événements incroyables, jour après jour.
Ouais, c'est alors, ça, que des événements dingues.
Vous, la chose que vous avez été, vous l'expliquez comment?
Personnellement, j'aimais pas trop jouer sous la chaleur. Franchement, c'est vrai que j'aimais pas trop la saison printemps-été. Je pense que j'avais plutôt le même physique que Sinner, assez ouais. Gêné, parce que lui, c'est quand même incroyable, quoi. 6-3, 6-2, 5-1, il me semble.
Oui, c'est ça.
Même à 2 points, je pense.
À 2 points du match. Avant de
et ne pas arriver à finir. Et puis, c'est surtout son adversaire où je me dis, c'est incroyable, il y a cru. Et jusqu'au bout, quoi. Lui aussi, il aurait pu se dire ah, c'est pas grave, c'est Sinner. Et non. Donc, franchement, c'est impressionnant quoi, pour Sinner qui est resté sur 30 victoires consécutives.
Ouais. Puis surtout, il a tout eu, hein, Sinner. C'est-à-dire qu'il a été victime d'insolation, puis de nausées, où il a été vomir à plusieurs reprises en sortant du court. Et il a surtout eu sa hanche qu'il a lâchée. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez noté. Sa hanche grinçait déjà un petit peu quand il a remporté le Masters 1000 de Rome. Ça s'est encore confirmé lors de son match face à Cerundolo. Donc, il a tout eu. Il a eu beaucoup, beaucoup de choses. Et pas que la chaleur pour le sortir du
tournoi. Oui, mais Stéphane, pourquoi autant de forfaits? Pourquoi autant de têtes de série qui tombent à tour de rôle dès les premiers tours? Enfin, on n'a jamais vu ça.
Non, mais moi, c'est
toi, t'es plus jeune que nous.
Pour moi, c'est très simple. C'est juste l'accumulation de tournois qui est absolument phénoménale.
Oui, mais quasiment... de tout temps, c'est comme ça.
Non, là, à ce point-là, c'est vraiment trop. Depuis quelques temps, ça commence à faire. Hein. Depuis 5-6 ans, on commence à enchaîner des tournois, des Masters 1000 sur 12 jours. Quasiment tous, excepté celui de Bercy. Je dis Bercy parce que je suis un vieux de la vieille, même
oui,
si ça se passe à Nanterre. Excepté celui de Bercy et de Monte Carlo aussi. Ces deux tournois-là se disputent sur 7 jours. Tous les autres, c'est sur 12 jours. C'est-à-dire que là, si vous enchaînez Indian Wells, Miami, les deux sont sur 12 jours. Vous ne pouvez pas avoir le temps de récupérer correctement pour pouvoir être compétitif sur ces deux tournois, à moins d'avoir un physique monstrueux. Et même avec un
un physique monstrueux, bah, même les meilleurs abandonnent. Quoi.
Joko était pas bien aussi, il a vomi contre Fonseca.
Oui, contre Fonseca.
Ah,
oui.
2-7 à 0 aussi. Hein.
Tout et
à
pourtant, fait. Dieu sait qu'il a de l'expérience. Ah et bah, que, c'est vraiment mais... champion, mais bon, moi j'ai vu la conférence de presse donc, de Djokovic et il a parfaitement su assumer, entre guillemets, sa défaite. Mais voilà, enfin, ça reste quand même, évidemment, c'est une banalité ce que je vais dire, mais un immense champion. Et malgré tout, bah, il aura quand même encore marqué ce Roland-Garros et on espère encore le revoir. Parce que,
J'espère que ce sera pas son dernier.
Non, je suis pas sûre de ça.
Je ne pense pas.
Non. Vu son état d'esprit, je ne crois pas.
Alors, vous avez des coups de cœur, des coups de gueule quand même sur cette première semaine. Kwame, par exemple, les adieux de mon fils.
Oui, bah, franchement, il y en a tellement. Il y a trop de choses à dire.
Justement, t'es là pour en parler. Stan Wawrinka aussi. Oui, fait son dernier match aussi sur Simone Mathieu.
C'était très émouvant, ça aussi. Mm-hmm. Oui, Gaël Monfils qui termine en night session dans un match en 5-7. Bon, un peu dommage qu'il termine sur un 6-0 au cinquième. Ça m'a rappelé de vieux souvenirs. Le match contre Murray, c'était pareil. Il était mené 2-7-0, il revient à 2-7 partout. On se dit, ouais, il va le faire. Puis finalement, avec la nuit, il commence à arroser de partout. Il termine à 6-0 au cinquième. C'est à peu près le même match qu'on a subi. Je me suis dit, bon, c'est dommage qu'il finisse sa carrière à Roland sur un 6-0 au cinquième. Mais quand même, c'était très, très émouvant à voir. Donc oui, ça fait partie de mes coups de cœur. Moïse Kwame, pareil. Son match, déjà face à Cilic, j'ai trouvé extrêmement mature sur le court, au-delà du fait qu'il soit jeune et qu'il soit plein d'envie. Très très mature, 17 ans, mature physiquement, mature techniquement, mature tactiquement.
Et même mentalement, j'aime bien son attitude sur le court.
Ah oui, il est en mission.
Il se bat, il se plaint pas trop. Ouais. Franchement, j'adore.
Il est en mission sur le court. Déjà contre Cilic, c'était dingue parce que Cilic a tenu physiquement un seul set. Mais surtout, contre Valero, c'était exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Il était mené 5-3 break. Valero était sur le point de servir pour le gain du match et il arrive à s'arracher pour aller chercher l'ultime super tie break dans l'ultime manche et aller chercher le match on va dire peut-être le passing le plus important de sa carrière quoi.
Je vous rejoins totalement sur ce que vous dites parce que c'est rare si jeune d'avoir un tel mental et un tel état d'esprit aussi où notamment je pense qu'il a dit qu'il avait préparé ses matchs en faisant 5 heures donc de préparation de 5 heures et ça c'est ça en fait qui démarque parce que dans l'entraînement évidemment quel que soit le sport vous devez absolument vous mettre dans les conditions et c'est ça qui au final, va vous préparer de la meilleure des manières à l'épreuve, à un tel événement tel que Roland Garros, même si vous êtes jeune. Je pense aussi qu'il a les bonnes qualités, le bon état d'esprit et sans doute aussi une sorte d'humilité qui s'est cultivée au quotidien.
C'est ça qui,
je pense, aussi est important.
Oui, clairement, c'est ce qui ressort
de Kwame.
Et
rester, garder la tête froide.
Voilà. C'est ce qui ressort de Kwame pense qu'on va beaucoup apprécier le fait de revoir Moïse Kwame sur le circuit d'ici peu parce que là ce qui est bien c'est qu'en plus en termes de progression il va retourner en challenger et ça le dérange pas, ça c'est quelque chose qu'il faut noter aussi quand on est jeune, des fois on a tendance à vouloir brûler les étapes parce qu'on va faire bon parcours en grand chelem, non il a dit je retourne en challenger, je retourne prendre de l'expérience et au fur et à mesure du temps il va prendre en classement, il va prendre en maturité encore plus pour pouvoir se rapprocher au top 100 et ainsi que le monde puisse le découvrir de manière beaucoup plus régulière. Donc
il faut le ménager un petit peu psychologiquement quand même, faut pas trop.
Bien sûr, faut le ménager. Après, on n'est pas au niveau de Richard Gasquet, sa une à 8 ans dans
Tennis Magazine, en 19.
On n'en est pas là. Au contraire, il est préparé à ça, il est préparé à cette surmédiatisation, mais
Il est quand même jeune. Ça doit quand même être impressionnant et ça doit faire bizarre comme ça.
Bien sûr. Donc Moïse Kwame, coup de cœur absolu. Fonseca aussi.
Ah, Fonseca, moi je le vois aller au bout. Moi en fait, j'ai vu son match contre Prismic où il était mené 2-7 à 0.
Tout à fait.
Et les 3 autres sets, mais pour moi, il était sur un nuage. Des coups gagnants, un coup droit, mais à une vitesse impressionnante.
Ah, c'est monstrueux.
Et avant le match contre Djokovic, je pensais déjà que ça pouvait faire quelque chose. Et donc à voir la suite s'il tient physiquement, mais je le vois bien aller assez loin.
Et puis premier joueur brésilien à être en quart de finale à Roland-Garros depuis Gustavo Kuerten en 2004. C'est dire à quel point là, il commence à rentrer dans le rang des idoles dans son propre pays. Mais franchement, c'est très très fort ce qu'il fait Fonseca. Pour moi, le match contre Djoko, c'est le plus beau match de la quinzaine, de loin. Mené 2-7-0, il revient dans le cinquième set, il se bat, il arrache même le dernier jeu de service de Djoko, il arrache sur une amortie, presque en vieux briscard. On se demande, c'est qui a de l'expérience face à Novak Djokovic, qui est pourtant tout meilleur, si ce n'est le meilleur de la discipline. Et derrière, il enchaîne Casper Ruud, pareil, dans le même état d'esprit, toujours conquérant. Il met 6-2 au quatrième en patron. Non, vraiment, c'est très, très fort ce que produit Fonseca. Et puis, attention aussi, je note Matteo Berrettini, lui aussi. Je mets une petite piécette sur lui parce que ce qu'il a montré en première semaine, notamment contre Rinderknecht, là j'ai eu le sentiment de retrouver le Berrettini d'il y a 3 ans à Wimbledon où il était vraiment souverain sur son service avec ses énormes patates de coup droit et surtout sa grande variété au filet. Donc oui, moi je mets aussi une piécette en plus de Fonseca, je mets une piécette
et
sur
Berrettini. Et alors Zverev, ça serait pas sa première chance là de pouvoir faire un grand chelem avec toutes ces têtes de série qui sont.
On verra, voilà, mais. En tous les cas, là, juste après son match hier, il a expliqué, justement, on parlait des conditions donc de la météo, la canicule. Il a expliqué qu'il avait l'habitude de s'entraîner en Floride et donc qu'il était habitué à la chaleur, mais qu'il jouait aussi en Allemagne, donc avec des changements de temps. Donc ça aussi, hein, ça joue. Maintenant, on verra ce qu'il en est. Moi, j'aimerais... Je n'ai pas envie d'être Jeanne Noir ni quoi que ce soit.
Vas-y, mouille-toi, si tu as un pronostic, vas-y.
Allez, moi, franchement, non, j'aimerais... Sincèrement, j'aimerais simplement le voir en finale et j'avoue le voir gagner. Maintenant, on verra parce que face à lui, il va y avoir Fonseca, notamment des grosses pépites. Donc, c'est vraiment très serré. Et j'ai eu l'occasion donc d'aller à Roland Garros. Je rebondis sur ça et j'ai pu voir ses entraînements. Donc, sur la première semaine, j'ai pu voir les entraînements de Rybakina, le match de la sœur de MP Tribericard, donc Daphné. Et voilà, c'était mon premier Roland-Garros que j'ai pu savourer. Et j'en profite aussi
pour rebondir sur la
conf de presse de l'Open du Stade français, un tournoi de
moins de... Un tournoi
de moins de 14 ans qui aura lieu du 10 au 18 juillet donc au Stade français à la Faisanderie et qui est totalement gratuit. Et sachez que dans ce tournoi il y a eu Zverev, Rybakina, Monfils, plein d'autres, Svilotina, vraiment plein de grands champions, Rune, donc qui sont devenus après par la suite donc de grands champions qui sont là donc à Roland-Garros pour certains d'entre eux. Donc allez voir donc du 10 au 18 juillet au Stade français et voilà, c'est gratuit.
C'est juste
et
avant la fin de la coupe.
On retrouvera donc notre podcast. J'ai interviewé le directeur du tournoi Jacques Laurent qui a répondu à mes questions avec beaucoup d'honnêteté et d'enthousiasme. Donc vous retrouverez ça prochainement avec nos autres événements sur lesquels nous avons été.
On est en train de vous préparer tout ça en parallèle de nos émissions sur le mondial, hein, puisqu'on passera bientôt en configuration mondiale. Théo, t'en penses quoi de cette folle première semaine de Roland Garros? Il s'est passé tellement de choses entre les forfaits, les cascades d'abandon.
Je suis ce qu'on pourrait considérer vraiment un tennis. Enfin,
t'es journaliste sportif.
Je suis assez
peu d'avoir une opinion
tennis,
d'intervenir.
Je regarde quand il y a Roland, je regarde, je savoure quand les Français vont un peu plus loin, quand ils font des beaux matchs. Mais je suis assez éloigné du tennis, donc j'aurais pas d'analyse tactique, juste je trouve ça surhumain et je serais incapable de jouer ne serait-ce que 4 balles sous le soleil de plomb à Paris les dernières semaines. Je me serais évanoui, donc grand bravo.
Alors, on a parlé des hommes et chez les
c'est encore pire.
Les femmes, dommage
bon,
pour
déjà,
le
boisson. Ouais, c'était prévisible quand même. Manque de compétition.
Oui, c'est vrai que vu ces tournois qu'elle a fait.
Et puis on sait
avant,
toujours que c'est difficile de repartir après l'exploit d'une
saison. Autant Arthur a subi justement la couverture médiatique.
Ça se peut qu'elle ait eu la pression aussi. Je pense que ça a joué, mais après elle se sentait de plus en plus prête. Mais je pense que forcément il lui fallait beaucoup plus de matchs dans les jambes.
Elle avait que 5 matchs avant de pouvoir débuter Roland. C'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu.
Par rapport aux autres, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais on a eu Diane Paris.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire.
Tout à l'heure,
Mais c'est déjà une grosse performance pour elle. Ouais. Je pense qu'elle peut être déjà très contente de son parcours et,
justement,
et à suivre pour la suite.
On parlait du podcast, on l'a en podcast, puisqu'on a eu l'occasion d'être toute la semaine au Trophée Clarins.
À la Gardère,
oui. Bon, dans des conditions météo où il a fallu gérer.
Là, pour le coup, c'était pas la canicule.
Non.
Justement, on l'a interviewée et elle était déjà dans Roland Garros. Hein. Donc c'est bien, on lui a porté chance.
On lui avait passé quelque part.
Même si ça s'arrête en 8e de finale pour elle quand même, c'est sa meilleure performance.
Elle s'arrête en 8e de finale mais pas sans performance notable. Elle sort quand même au tour précédent Amanda Anisimova, 6e mondiale.
7-6 au 3e.
Dans un match de fou, dans une ambiance de dingue. Donc là pour le
et
coup elle est fière de son parcours.
En finale du Clarins, elle a battu Case en finale. Mais
sur forfait. Il faut le noter quand même.
Justement, j'allais le dire, elle était un petit peu frustrée d'avoir gagné, elle le dit dans l'interview, d'avoir gagné par abandon.
Bien sûr, c'est 6-3, 3 partout je crois au deuxième. Elle était frustrée, elle en a parlé juste après. Mais non, franchement, il faut noter le tournoi de Diane Paris qui a été excellent sur son point de vue. Elle va rentrer de nouveau, elle va être très proche de nouveau de rentrer dans le top 50. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, avec sa défaite aujourd'hui contre Chwalinska, elle sera 54e joueuse mondiale d'ici, je crois que c'est aujourd'hui que ça sort le classement, 54e mondiale Diane Paris. Parmi les autres résultats chez les dames, bah faut noter aussi Sorana Cirstea, la roumaine. Elle a une super histoire. Elle avait annoncé en début d'année qu'elle arrêterait sa carrière, donc à l'âge de 36 ans. Sauf que bon, bah pour ceux qui suivent un peu le tournoi, ceux qui suivent un peu le tennis des années 2010, bah
qui est revenue, oui.
Elle est revenue de très loin parce que c'était une joueuse qui était à fort potentiel derrière Simona Halep pour le tennis roumain. Elle a malheureusement pas pu confirmer avec un manque de résultats et surtout pas mal de blessures tout au long de sa carrière. Elle annonce sa fin de carrière cette année en janvier. Et depuis, c'est juste royal. Les résultats qu'elle obtient, c'est juste royal, que ce soit en Masters 1000 ou en Grand Chelem. Là, actuellement, elle est 18e mondiale. 18e mondiale, une grosse remontée à l'âge de 36 ans. Elle est en quart de finale à Roland-Garros. La dernière fois qu'elle a été en quart de finale, c'était en 2009, au même endroit. Donc, entre 2009 et 2026, c'est passé énormément de choses. Elle revient en quart de finale d'un Grand Chelem, c'est inédit. Donc, ça aussi, c'était une belle histoire que je voulais noter.
Donc, Williams qui revient, elle peut faire le même parcours.
Ah oui, mais en double.
En double. Il faut noter
pour l'instant.
Pour l'instant. Si elle a quelques résultats, elle changera.
Oui, voilà.
Elle se mettra au simple. Comme quoi
pareil que Stéphane, ou alors il y a d'autres personnes qui peuvent, d'autres jeunes filles et jeunes femmes qui peuvent émerger sur les dernières semaines.
Émerger, mais en tout cas moi je vois bien Svitolina aller au bout, la sens bien, elle a eu des gros matchs, en plus là elle est à Paris, le public est un peu pour elle avec Gaël, etc. Donc je pense qu'elle se sent bien, je la vois bien aller au bout.
Après attention, hein, elle affronte Marta Kostiuk en face, c'est pour vrai, un quart de finale, un match 100% ukrainien, et surtout Kostiuk en termes de résultats, elle, depuis le début de la tournée sur terre battue européenne, elle n'a perdu aucun match dans tous les tournois qu'elle a disputés. C'est-à-dire que là, elle a remporté le titre à Rouen en WTA 125. Elle a remporté le titre, le WTA 1000 de Madrid. Donc, sa première victoire dans cette catégorie. Et là, elle est invaincue sur terre battue. Donc là, ça va être un très, très gros match qui va se jouer.
C'est leur prochain match. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a Sabalenka et Osaka, d'ailleurs, qui jouent ce soir
en Night Session.
En Night Session. Ouais.
Ça va être un très beau match.
Ouais. Premier match féminin en Night Session, d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait.
D'accord. Et sinon, pour le reste, les Françaises et les Français, bon, absents en deuxième semaine, j'allais dire que c'est presque du classique et du traditionnel depuis des années, hein, sauf l'an dernier.
Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal, là.
On est dans un creux générationnel, faut le dire. Ça fait depuis 2015, depuis 2016 même, qu'on est dans un creux générationnel. Et il s'est encore plus creusé avec la fin de carrière des fameux quatre mousquetaires, Tsonga, Simon Gasquet, mon fils.
Du coup, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu Arthur Fils pour ce qui était sur une belle lancée. On aurait bien aimé voir ce
qu'il
n'est
pas souvent blessé. Arthur Fils, c'est ça le problème aussi.
Oui, alors après, attention, il a été.
C'est un monumental espoir, mais bon, souvent blessé quand même.
Oui, souvent blessé, oui et non. C'est-à-dire que l'année dernière, il était blessé parce qu'il avait trop joué. Cette année, il a déclaré forfait. Ça, faut vraiment le remettre en contexte. Il a déclaré forfait à Roland pour se préserver. Parce qu'il a bien dit en conférence de presse que sa carrière est longue. Il a 15 ans, 10-15 ans avant lui. Si c'est pour se griller physiquement en enchaînant trop de matchs, c'est comme ça qu'il risque de tuer sa carrière à petit feu. Donc, le fait de ne pas le voir à Roland, effectivement, c'est difficile pour
nous
en France.
Mais il n'a pas accès sur Roland-Garros cette saison.
Comment ?
Il n'a pas accès sur Roland-Garros la saison ?
Bah, au début, si. Mais la manière dont il est revenu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est revenu de 8 mois de blessure depuis Roland-Garros l'année dernière. Il est revenu de 8 mois de blessure. Il enchaîne quand même, et ça c'est dingue, quart de finale à Indian Wells, il ne perd pas de points. Demi-finale à Miami, où il fait encore mieux que la saison dernière. Il refait... effectivement, il ne participe pas à Monte-Carlo pour pouvoir se reposer. Donc ça, déjà, c'est un premier élan de lucidité. Mais surtout, il remporte le titre à Barcelone. C'est pas rien avec 8 mois après 8 mois sans jouer, c'est vraiment pas rien ce qu'il a réussi à produire, et moi je trouve ça bien justement sur sa saison, le fait qu'il pense de cette manière à se préserver physiquement, parce qu'il y a tellement de tournois, tellement de matchs à jouer, que bien penser son calendrier, bah ça aide justement à se
mettre loin. Moyen terme, long terme, quoi.
Voilà, c'est ça, même si effectivement c'est vrai que ça fait bientôt 2 ans qu'on l'a pas vu en Grand Chelem, c'est vrai que c'est frustrant, mais
Roland Garros à la maison, c'est vrai que même pour lui ça peut être frustrant.
Bien sûr,
l'année prochaine, espérons.
Toutes les têtes qui étaient tombées, c'est d'autant plus frustrant,
c'était ouvert, aurait
pu aller plus loin.
Exactement.
Et oui. Après, bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même eu d'autres joueurs qui se sont remarqués, hein. Bon, on a parlé de Kwame évidemment, mais quant à Alice qui va au 3e tour et qui fait un match loin d'être mauvais face à Alexander Zverev en 4-7. Moi j'ai noté aussi les gros combats de Pierre-Hugues Herbert, 35 ans, face à Lorenzo Sonego, qui arrive jusqu'au 5e set. Quand même, on se dit que bon, normalement c'est censé être fini, mais il sort quand même des qualifs après 3 victoires. Donc ça, c'est plutôt intéressant en termes d'histoire. Lucas Vernaché, qui avait totalement disparu, lui aussi, il se hisse au 2e tour. Il fait un gros combat en 5-7 face à Brandon Nakashima. voilà, il y a pas mal de bons résultats. Même, j'allais même oublier Valentin Royer qui a réussi à shipper un set face à Novak Djokovic au deuxième tour et dans un combat de 3h45 sur le Philippe Châtrier.
Et notre ami monégasque.
Valentin Vacherot, lui, il a fait forfait. C'est-à-dire qu'il a battu Thomas Forel, qui était sorti des qualifs. Mais il a fait forfait parce que lui, il s'est blessé au pied gauche. Mmh. Il commençait déjà à grimacer lors de son match face à Thomas Forel au premier tour. Il a déclaré forfait dans la soirée en disant voilà, je suis blessé, je ne peux pas continuer le tournoi.
Thomas Forel à suivre aussi parce que là, il a passé du coup ses 3 tours de qualif et il a montré un très bon niveau de jeu, justement face à, pendant les 3 matchs face à Valentin Vacherot. Donc à suivre parce qu'il est jeune aussi. Hein.
Oui, il est jeune, il est vraiment jeune, issu du circuit universitaire américain. Il me semble de mémoire, il a 17 ou 18 ans, même pas.
Oui, dans ces eaux-là.
Zola,
peut-être 19 ans.
Ouais, dans ces eaux-là.
Et il me semble que son oncle est coach de Coco Gauff.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, il a de l'expertise à ses côtés, donc je pense que ça peut aller loin.
Oui, et l'hommage aux anciens qu'on rend depuis quelques années sur Roland-Garros, ça c'est bien.
La soirée Gaël et Anne Friend, ça c'était sympa.
Wawrinka, ça avait été Nadal l'année dernière, Wawrinka cette année, c'est sympa ça.
Ça fait plaisir aux joueurs, je pense, et puis même aux fans, ça laisse une dernière fois pour les voir et profiter.
Bien sûr, bien sûr. Et puis c'est bien quand on se remémore les meilleurs moments de ces fameux joueurs qui ont arrêté cette année. Sur le dernier match de Stan, on a tous pensé à Roland Garros 2015 où il a été stratosphérique en finale face à Djokovic, incroyable. On pense aussi à Gaël avec ses nombreux matchs de dingue qu'il a fait en huitième, en quart.
Oui, puis c'était un showman.
Voilà, c'était un showman.
Son
jeu était exceptionnel. Il est une inspiration à travers le monde, ce qu'on ne dit pas assez. On ne le dit pas assez en France et tout. Donc non, franchement, moi, je trouve ça bien qu'on fasse des hommages aux anciens joueurs.
Ouais. Dernier petit mot, en double, ça peut bien se passer peut-être, côté français, un double mix dames ou hommes, non? Pas de chance.
Justement, c'est ça qui est bien.
D'aller tirer son épingle du jeu.
Justement, c'est ça qui est dingue, c'est que on a souvent tendance à faire cette erreur de langage en disant il y a plus de français à Roland Garros. Non, c'est faux. Faux. Il y a plus de français dans les tableaux simples dames et simples messieurs.
Voilà. Il y a des français
en double. Il y a encore des français en double messieurs, double dames et double mixte. Donc oui, il y a de quoi faire. Il y a encore
une chance de médaille.
Et peut-être une chance, oui.
Ouais, une chance de victoire. Bon, écoutez,
on croise les doigts.
Il n'y a pas de raison.
Voilà.
Très bien, écoutez, merci, hein.
Merci.
Belle deuxième semaine sur Roland-Garros. Stéphane, on se prépare pour la Coupe du Monde, notre ami Stéphane Desenclos. Hein.
On
t'envoie pour la Coupe du Monde maintenant. Hein.
Ouais, on prépare ça avec beaucoup d'ambition, beaucoup de plaisir qu'on a vu les Parisiens, le niveau des Parisiens. je rigole. Mais quand on a vu cette équipe de France, c'est vrai qu'elle a tout pour réussir au mondial. Et on verra ça ici en direct.
Absolument. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci à Daniel une nouvelle fois pour avoir été brillamment aux manettes. L'émission, ne l'oubliez pas, on peut la réécouter en podcast comme toutes les émissions depuis le début de cette saison. Et puis elle est aussi régulièrement rediffusée, donc je crois le mardi. Voilà, belle soirée à toutes et à tous. Cette fois-ci, on termine en musique et au bout du foot, dans quelques minutes, qui va encore continuer à parler de l'abondante acte du foot et probablement donc de la victoire. Deuxième étoile du Paris Saint-Germain. Belle soirée et rendez-vous la semaine prochaine.
Belle soirée.
Salut.
Bonne soirée.
Seul le crime pas c'était nous.
Les hommes.
Ceux qui plantaient c'était vous.
Les hommes.
Coup de genou.
Les hommes.
Ici y'a que de l'eau.
Les hommes.
Seul le crime pas c'était nous.
Les hommes.
Ceux qui plantaient c'était vous.
Les hommes.
Coup de genou.
Les hommes.
Ici y'a que de l'eau.
Les hommes.
On a la rue sur le dos.
Les hommes.
J'suis en solo comme Calimero.
Les hommes.
J'ai fumé la San Pedro.
Les hommes.
Classico 5-0.
Les hommes.
Comment ça va, Ligato?
Les hommes.
Assis sur des Forti Arto.
Les hommes.
Elle enlève son paréo. Et j'finis sur son
dos,
couteau de boucher dans la colonne. J'ai rien appris à l'école, sauf qu'il faut arrêter tôt. Comme XV Barbare et Leto, Toro le nom de mon cognac. Rien sur le caillou comme Kojak. Les Halki Ground Zero, est-ce que tu m'entends? Eh oh, j'suis en enquête comme K-Zero. Africa, j'ai pas les mots. Coco di Bamako, Rio de Janeiro. Le 11-43 te met au pas. C'est pas des faits placebo. J'ai produit à Calello. Faut qu'un colon, faut que Laurent Bruno.
Les hommes.
comme les nains situations. Ils s'approchent des petits garçons, arme à la main méditation.
Les hommes,
tous les tuer sans explication. J'suis devant mon poulet à loco.
Les hommes,
soir si j'suis bagayoko.
Les hommes,
tant l'autre joue dit oui patron. J'ai pas reçu cette éducation. J'suis la Russie au saut par le ton.
Les hommes,
t'es la France de Brigitte Macron.
Les hommes,
le diable s'habille pas comme Prada.
Les hommes,
la gra comme Théodora.
Les hommes,
j'ai ma side bitch sur le côté.
Les hommes,
c'est comme un produit dérivé.
Les hommes,
dans quelques jours c'est la finale.
Les hommes,
PSG aura deux étoiles.
Les hommes,
seul le crime fait c'était nous.
Les hommes,
ceux qui plantaient c'était vous.
Les hommes,
coup de genoux.
Les hommes,
ici y'a que de nous.
Les hommes,
seul le crime fait c'était nous.
Les hommes,
ceux qui plantaient c'était vous.
Les hommes,
coup de genoux.
Les hommes,
ici y'a que de nous.
Les hommes, les hommes.
Gör toşer git farz derelim.